Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la crise du néolibéralisme entraînera-t-elle dans sa chute la démocratie libérale? Des révoltes récentes, comme celle des Gilets jaunes, ont reposé cette question à nouveau frais. Le philosophe Jean-Claude Monod propose dans son dernier essai « L'art de ne pas être trop gouverné » d'y répondre en reprenant le concept de crise de la gouvernementalité pensé par Michel Foucault. Comment défendre un libéralisme qui ne soit pas un auxiliaire de la dérégulation économique et de la dévastation écologique du monde? Jean-Claude Monod sera notre invité à 12h55. Mais avant cela, rencontre avec une grande voix qui porte à la fois toute l'histoire et l'actualité de son pays par sa musique, qui emprunte à la tradition des griots maliens, autant qu'aux sonorités jazz et rock d'influence afro-américaine. Rokia Traoré est l'invité tout de suite de la Grande Table, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Raphaël Bourgois.
La France l'avait découverte à Angoulême en 1997, au festival Musique Métis, l'année même où elle était sacrée lauréate du concours Découverte RFI. 6 albums plus tard et une fondation pour la création au Mali à son actif, l'artiste Rokia Traoré se voit consacrer un week-end spécial à la Philharmonie de Paris du 4 au 6 janvier prochain. Sont prévus 3 concerts et de nombreux ateliers. Elle est l'invitée de la Grande Table. Bonjour Rokia Traoré.
Bonjour.
Et bonne année.
À vous aussi.
Eyaye, kobe na kenyale, koma na kenyala, koma na ketinyala, a Kenya. Ona Kenya le, imana ke mofe kanuna Kenya le, imana ke bana moro ona Kenya le, momana ke kokoro kobe na Kenya.
Rokia Traoré, vous avez su dessiner les contours d'un style musical unique, nourri de la connaissance des griots, la source de l'histoire au Mali, ce sont vos propres mots, autant que, donc, je le disais, de nombreuses références musicales, blues et jazz, à l'instar d'une Billie Holiday ou de Myriam Makeba, auquel vous vous référez assez souvent. Une musique également imprégnée de vos engagements pour les femmes, pour les réfugiés, comme dans la chanson qui donne le titre de votre dernier album, Nesso, chez moi. Là, c'est Kenya qu'on entend, qui est une autre chanson issue de cet album. Donc Nesso, ça veut dire chez moi, se sentir chez vous, c'est un enjeu important. Vous qui avez été élevé plutôt à l'étranger, où est-ce que vous vous sentez le plus chez vous aujourd'hui, Rokia Traoré?
J'ai toujours eu ce besoin de retourner au Mali dans les grands moments de bonheur, mais aussi les grands moments de tristesse. Il y a cette forme de solitude qui m'a faite, avec laquelle j'ai grandi et que je garde en moi. D'abord par le métier de mon père et tous les voyages, et puis ensuite par mon propre métier. Finalement, ça fait partie de moi et j'ai l'impression de l'apprivoiser au Mali et trouver un équilibre que je ne trouve pas ailleurs. Même si j'aime beaucoup voyager quand même et les autres cultures m'intéressent et je suis ouverte à tout, mais à Bamako, c'est la maison.
C'est chez soi, c'est un chez soi qu'on ne peut pas emporter avec soi. Qu'il faut retrouver.
Oui, c'est en fait, quand on y est, on le fabrique de manière perpétuelle. Rien n'est jamais fini dans cette vie et pas la notion du chez-soi non plus. Il y a le chez-soi pour quelqu'un qui a toujours beaucoup voyagé comme moi, c'est aussi tous les voyages, c'est partout, c'est la découverte, le chez-soi. C'est tout ce dont on s'approprie sur l'instant, c'est cette capacité à absorber, à comprendre, à utiliser, à trouver un équilibre. Tout ça, c'est soi et c'est ce qui nous fait Et ça fait que finalement, on garde une chose, une notion de la vie, c'est cette reprise de tout en permanence. C'est pour ça que avoir une ville, une langue ou des langues, des personnes, des attitudes qu'on a comme ça en souvenir depuis tout petit et qui est finalement ce à quoi on revient à chaque fois est très important pour quelqu'un comme moi.
Des sonorités Bamako, aussi. Des voilà. Sonorités aussi, évidemment, pour vous, la musicienne Rokia Traoré. Alors, comme il y a des rétrospectives de grands peintres, ces trois soirées à la Philharmonie de Paris donnent l'occasion d'explorer les différentes facettes de votre travail, mais aussi de raconter une histoire plus longue. Trois concerts donc, le premier sera consacré à l'Empire Mondé, le second à l'épopée de Sundiata Keïta qui unifia et donna une première constitution à l'Empire du Mali. On est au XIIIe siècle, donc il y a déjà bien longtemps de cela. Et enfin, le troisième concert reprendra votre dernier album, Nesso. Pourquoi fallait-il inscrire votre histoire personnelle, votre histoire d'artiste dans cette longue histoire du Mali, Rokia Traoré?
Parce qu'elle m'a faite cette histoire du Mali. Je viens de là, ma famille est mandingue à la base, et puis ils sont devenus les Bambara, qui en fait, Bambara signifie renégat. C'est ceux qui sont partis pour différentes raisons, qui se sont rebellés, des fois en raison de la religion, ou pour des querelles intrinsèques, et qui ont bougé ailleurs. Donc le reste du Mali, les familles et les ethnies se sont constituées ainsi. Et puis, toute cette histoire m'a beaucoup intéressée très tôt parce que je ne grandissais pas au Mali. Et plus je la découvrais, plus elle m'intéressait, et mon intérêt pour la musique a rendu ce lien encore plus fort, parce que l'histoire de cette partie de l'Afrique a été fortement préservée grâce à une organisation dans le milieu culturel et artistique qui n'a pas d'égal de nos jours. C'est très difficile à décrire. C'est vrai qu'on l'a réduit au griot, alors que c'est beaucoup plus compliqué et sophistiqué. Donc tout ça, l'intérêt pour tout ça m'a construit et a construit ma carrière au fil du temps.
On reviendra évidemment à cette construction culturelle et sociale autour du personnage du griot, mais qui la dépasse largement, comme vous venez de le dire, Rokia Traoré. Mais pour continuer un peu sur ce qui fonde votre identité d'artiste, probablement autant que votre identité personnelle, j'étais frappé de voir que le premier des trois concerts, donc Mali Connexion, sera ouvert par une première partie qui sera réalisée par Balaké Sissoko, le joueur de kora malien, et le violoncelliste français Vincent Segal, donc qui ont collaboré à plusieurs reprises pour deux albums. Et donc on a cette rencontre entre deux musiciens, l'un malien, l'un français, dont Vincent Segal, donc, qui nous écoute, j'en suis sûr que c'est un auditeur assidu de France Culture, et donc on le salue. Kora de Balaké Sissoko et le violoncelle de Vincent Segal. C'était important pour vous, Rokia Traoré, de commencer par un concert qui mette l'accent sur le métissage des musiques?
Oui, parce que finalement, c'est vrai que il faut des projets comme ça pour que l'on s'en rende compte, mais l'histoire même de la musique très très liée, l'histoire de la musique contemporaine européenne est très très liée à l'Afrique, à travers l'esclavage, c'est cette seule liberté que les esclaves ont pu emporter avec eux leur voix et leur notion de leur culture qu'ils avaient, qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer qu'à travers le chant, qui est devenu le blues, puis le jazz classique, puis le jazz, puis le rock. Donc le métissage, il est là depuis toujours. Et ce genre de métissage comme celui qui unit les œuvres ou l'œuvre de Balaké Sissoko et Vincent Segal est à quelque chose de sain et joyeux, pas de fait, même qu'on est finalement à nos époques où il y a une liberté possible.
Alors le concert ensuite, votre concert Rokia Traoré sera consacré, ce premier concert du 4 janvier sera consacré au Mandé, cette région de l'Afrique de l'Ouest qui était constituée de plusieurs royaumes et qui donnera naissance au Mali, une histoire qui est peu connue ici en France, transmise donc, et il est temps d'en parler, par les griots, donc par une tradition orale et musicale. Vous dites, c'est d'ailleurs en couverture du dossier qui est consacré à ce week-end spécial à la Philharmonie de Paris, Rokia Traoré, vous dites les griots sont la source de l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Alors, ce qu'on appelle les griots aujourd'hui, c'est un mot qui me fait un peu mal parce que c'est très réducteur. C'est loin de pouvoir expliquer cette organisation extrêmement complexe qui concernait ceux qui jouaient des instruments, qui en fabriquaient, ceux qui chantaient les mots et ceux qui les préservaient et ceux qui les parlaient. Donc c'est extrêmement compliqué, ça incluait également ceux qui soignaient les gens, qui étaient les forgerons. Donc on les appelle les Nyamakala dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire ce sont des familles de castes. Jusqu'à notre contact avec la culture arabo-musulmane, il n'y avait pas de notion d'infériorité et de supériorité, parce qu'il n'y avait pas de notion de d'esclavage. On ne connaissait pas cela à l'époque. Et de ce que j'ai compris, à travers les récits de derniers qui restent et qui peuvent encore raconter ces histoires-là et leurs origines et les principes, il s'agissait d'organiser la société. Il fallait des personnes qui gèrent la parole, parce qu'elle était fragile par son oralité. Ça ne s'écrivait pas à cette époque-là dans cette partie de l'Afrique. Donc il fallait des familles qui s'engagent sur des générations à transmettre l'histoire, à entreprendre les démarches de médiation entre les royaumes, mais aussi entre les familles pour les mariages, les baptêmes, etc. Donc c'était très compliqué. Et ils sont donc la source de l'histoire, puisque ce sont les résidus de cette organisation très abîmée par la colonisation qui nous permet aujourd'hui et qui a permis déjà de reconstituer une grande partie de l'histoire de l'Afrique subsaharienne en général. Au Mali, c'est les griots, etc. Ailleurs, ça va être d'autres aspects culturels et artistiques. Mais les arts et la culture sont très utiles en Afrique en général pour nous reconstituer ce qu'il y avait avant et l'évolution de ce continent en dehors de la colonisation.
Vous avez beaucoup travaillé, Rokia Traoré, avec une griotte malheureusement disparue aujourd'hui en 2015, Kébako Dagnon. Je vous propose de l'écouter justement sur ce rôle spécifique des griots.
Nous, griots, nous chantons les hauts faits, les actes que la prospérité doit retenir. Le rôle des griots, c'est de veiller à la cohésion, à la stabilité, à la bonne entente de la société. Ils sont l'oreille, la bouche et les yeux de la société. Ils encouragent les travailleurs et découragent les paresseux. Chaque chanson doit avoir une signification. Seulement, voilà, aujourd'hui, on aime trop la facilité et l'argent facile. La différence entre le mendiant et le griot est vraiment minime aujourd'hui. Or, on doit tout faire pour ne pas perdre sa culture.
Voilà, on voit ce rôle important qui va des mariages jusqu'à la conservation même de la culture malienne, oui.
Ce qui est un peu frustrant, parce que j'entends entre ce qu'elle dit et la manière dont c'est traduit, il y a... Oui,
parce que... Ah bah dites-moi, parce que c'est évidemment
pas
nous qui avons fait la
traduction. Une des dernières choses qu'elle vient de dire... Et que la différence entre celui qui a pris le temps d'apprendre et celui qui se contente de vendre le peu qu'il sait est que le premier a réellement une éthique et a forcément été formé pour cela. Donc elle parle des griots. Et ce sur quoi elle a voulu mettre l'accent en général dans ce qu'elle a dit était le fait que dans l'organisation des Nyamakala en général, qui incluait, elle l'a dit au début, Nyamakala, les forgerons, les palefreniers, ceux qui s'occupaient du chant, des instruments, etc., il y avait les djeli. Les djeli, en général, c'était le chant et les instruments, et selon les parties de l'Afrique de l'Est, éventuellement la parole. Sinon, la parole est réservée dans d'autres parties au fina. Et que à cette époque-là, on avait de réelles éthiques dans ce qu'on apprenait, et on tenait à transmettre la parole telle qu'elle avait été transmise par les pères et les mères, et ce qu'on pouvait gagner comme argent ne comptait pas. C'était pas ça le plus important. Et donc, dans ce qu'elle dit, c'est vrai que la traduction elle
était faite par la télé nationale malienne, hein, donc c'est pas...
Ah bah,
ils doivent bosser leur traduction.
Ça arrive souvent, parce que c'est de la traduction terre à terre, c'est ça le problème. Le bambara est une langue, et le malinké sont des langues très imagées, et qui sont très, très littéraires, si en français. Donc, il faut savoir les traduire ainsi, et pas simplifier.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
12h19 sur France Culture, La Grande Table avec Rokia Traoré pour une série de concerts à la Philharmonie de Paris du 4 au 6 janvier. Des concerts, donc on le dit, Rokia Traoré, qui reviennent sur l'histoire du Mali. Et vous l'avez dit, une histoire qui s'est transmise essentiellement à travers la parole. C'est pas une histoire qui a été écrite. Pourtant, on voit aussi un mouvement ces derniers temps, un mouvement intellectuel pour réinscrire cette histoire dans l'histoire de l'humanité. On a pu parler d'afrocentrisme à un certain moment. On parlerait plutôt d'afrocentralité aujourd'hui avec des intellectuels comme Léonore Amiano, comme Achille Mbembe par exemple, qui veulent montrer que cette histoire de l'Afrique qui a été un petit peu mise de côté est bien une histoire de l'humanité, et c'est aussi ce que vous voulez montrer à travers par exemple l'histoire de Soundiata Keïta, qui est l'objet de votre deuxième concert, qui est un concert spectacle. Vous racontez cette histoire pour la réinscrire dans l'histoire générale. C'est pas juste une histoire africaine, Rokia Traoré.
C'est une pièce de théâtre musical où je parle beaucoup plus que je ne chante, et qui raconte...
Que vous aviez montré une première fois à Avignon il y a quelques années.
Ça a été créé à Avignon, effectivement, et qui en fait donne une version africaine de l'histoire d'Afrique. La réalité est que nous ne l'avons jamais écrite, cette histoire. Elle a été racontée par le colon qui est arrivé, qui l'a compris comme il a pu, et l'a racontée comme... parce que l'histoire peu importe d'où elle est, même quand elle est écrite, elle est très manipulée. Hein. Quand elle est écrite, il y a des parties qu'on cache, qu'on raconte moins selon le point de vue. Dans un pays, on va parler de tout ce qui est glorieux, et en dehors du pays, d'autres vont parler de ce qui l'est moins, dont on ne parle pas beaucoup dans ce pays, et c'est ce privilège que l'Afrique n'a pas eu. On a parlé que d'un aspect de l'histoire d'Afrique qui réduisait le continent à l'endroit où habitaient des gens dans le besoin, qui avaient besoin d'aide, besoin qu'on leur apporte une civilisation, besoin qu'on leur apporte une organisation, une manière de réfléchir. Et bien, c'est pas le cas. Donc, on arrive à des époques où plus ça va, plus il y a ce besoin-là, parce que ce continent passera par là à un moment donné pour prendre assurance et s'aimer. Il nous faut notre version de nos histoires à partir de nos compréhensions.
Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est en marche. Je me souviens d'une grande table qu'on avait fait, c'était en 2012 à Bamako. On avait reçu l'historien Dola Ikonate qui travaille justement à construire cette histoire dans une perspective malienne. Est-ce que vous avez l'impression que au-delà de ces intellectuels que j'ai cités, il y a une vraie prise de conscience, je dirais presque politique, puisque c'est un enjeu, hein, l'identité d'un pays, l'identité du Mali, surtout en ce moment. Vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience générale de cette nécessité de raconter cette histoire d'un point de vue malien.
Il y a une prise de conscience générale africaine à travers toute une génération d'artistes, d'intellectuels. Donc il y a une réelle classe artistique et intellectuelle aujourd'hui à l'échelle du continent. Après, dans chaque pays, les réalités ne sont pas les mêmes. Au Mali, le travail, la crise qu'on vit actuellement a cela de positif, si j'ose dire. C'est qu'il y a, en fond de tout ça aussi une crise identitaire par rapport à la situation politique, économique qui a favorisé ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Donc l'intérêt de détruire, c'est qu'on peut reconstruire de manière encore plus belle et plus forte.
Cette crise politique et sociale, c'est le contexte dans lequel vous avez écrit, enregistré votre album de 2016, Nesso, qui fera donc l'objet de la dernière soirée, le troisième concert donné à la Philharmonie de Paris ce week-end, Rokia Traoré. C'est un album qui est donc nourri aussi par vos engagements pour les réfugiés. Ça, c'est une chose. La chanson qui éponyme de l'album Nesso traite de cette question-là. Mais c'est aussi un album qui est nourri par vos influences afro-américaine, je le disais en début d'émission, j'aimerais vous entendre en parler un petit peu, et notamment évidemment Billie Holiday. La chanson de Billie Holiday qui traite évidemment de la question du racisme, de la ségrégation. Strange Fruit, ce sont les corps suppliciés des Noirs qui ont été lynchés dans le sud ségrégationniste des États-Unis. Rokia Traoré, c'est évidemment une chanson très très forte qui rappelle cette histoire et qui est aussi une histoire de la musique. Vous l'avez dit, l'histoire du jazz, on l'entend. C'est une musique qui est importante pour vous. Comment est-ce que vous définiriez votre style musical, Rokia Traoré? Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice?
Non, je suis quelqu'un de très libre en musique. J'ai envie d'interpréter ce qui me touche et de mélanger des choses qui me touchent, de m'inspirer ou de ce qui me touche. Et à partir de là, je ne sais pas si c'est encore possible de créer un style musical. Les styles musicaux se créent au fil des ans.
Au fil des ans.
Et des décennies. Voilà.
Et des voyages aussi, des influences.
Des voyages, voilà. Plus ils sont longs, plus le mélange est intéressant. Les gens, plus on a quelque chose à oublier, plus le besoin d'enracinement et d'appropriation dans un nouvel environnement va avoir une couleur, une identité précise, des odeurs précises, des sonorités précises, et plus le mélange est naturel. Et ça prend du temps. Ce processus, c'est à travers des générations.
Et c'est un processus qui accompagne évidemment l'histoire contemporaine, l'histoire sociale. Cette chanson de Billie Holiday, c'est évidemment la question du racisme qui n'est évidemment pas derrière nous, mais de la ségrégation qui, elle, est un petit peu plus. Fort heureusement, Rokia Traoré, vous, l'un des sujets, je le disais, qui vous tient à cœur, c'est celui des réfugiés. Aujourd'hui, cette chanson, c'est aussi une façon d'en parler, selon vous ?
Vous savez, il y a énormément de problèmes complexes, identitaires et sociaux avec l'Afrique et les nations noires en fond encore de nos jours. Et le point commun, moi, du haut de ma quarantaine d'années, que je trouve à tous ces problèmes, c'est cette... Ce mauvais premier contact entre la terre des Noirs et le reste du monde. D'abord l'esclavage, ensuite la colonisation. Tout cela a laissé une image extrêmement négative de la compréhension de ce continent et de ceux qui en viennent au reste du monde, mais aussi des habitants du continent.
Oui, on le voit aujourd'hui avec ces accusations de recolonisation à l'égard de la France, avec l'intervention Barkhane, par exemple.
Il faut vraiment se mettre pour une fois du côté de l'Afrique et des Africains pour comprendre. C'est vrai que c'est pas évident parce que une poignée de gens sont allés mener la colonisation, mais ce sont des nations entières qui l'ont subi, des générations entières qui en subissent les conséquences sociales, psychologique, et du coup nous ne vivons pas les choses de la même façon, et des fois la manière de l'exprimer peut être violente, mais nous avons la sensation, que ce soit sur notre continent ou quand nous voyageons, que nous sommes d'abord vus comme des personnes qui viennent de ce continent, et donc nous devons prouver que nous sommes africains ou noirs. Mais et ce mais, plus ça va, moins c'est supportable en tant qu'Africain.
Pour le comprendre, pour le concevoir, Rokia Traoré, on peut écouter votre musique. Ce sera l'occasion ce week-end lors de 3 concerts, donc du 4 au 6 janvier à la Philharmonie de Paris. Je vous remercie d'être passé
par
la Grande
Table
et de nous être accueillis. Merci beaucoup.